Donc voilà le débat des cheminots, hein, avec l'enthousiasme général, va pouvoir commencer. Il reste des places devant, on peut s'asseoir au premier rang, faut pas être timide, il y a de la place. Donc on va commencer un peu avec une introduction un petit peu générale sur la situation en ce moment. Et puis après je passerai la parole à mes petits camarades. Donc il y a Cécile qui nous fera un petit exposé sur ce qui se passe sur Lyon en ce moment. Valérie nous parlera ensuite de Rennes. Et on finira avec Nicolas qui nous racontera sur Nantes les réactions, les mouvements qui peut y avoir en ce moment, quoi. Et puis bon, après on pourra ouvrir la discussion et tout le monde dira tout ce qu'il a envie de dire. Donc on va commencer par l'introduction. Donc au mois de juin de l'année dernière, nous étions des dizaines de milliers de cheminots en grève contre la réforme ferroviaire. Ce que le gouvernement présentait comme une réunification salutaire entre la SNCF et RFF n'était qu'un plan de compétitivité destiné à réaliser des milliards d'économies sur le dos des usagers et des cheminots, tout en préparant la privatisation du transport ferroviaire. Il en va de la sauvegarde de la SNCF et de sa modernisation, se défendait le gouvernement de Hollande, qui tenait à faire la démonstration qu'il savait s'opposer aux grèves tout aussi bien que la droite. Mais on sait bien ce que cachent les mots de modernisation et de restructuration. Une régression et des attaques contre l'emploi et les conditions de travail. Cette grève a été importante au-delà même de la SNCF, car c'était la première fois depuis plus de 2 ans que le gouvernement socialiste était en place, qu'à l'échelle du pays, un secteur important du monde du travail se dressait contre lui. Pour autant, notre mouvement n'a pas été victorieux. Son point faible a été les limites dans lesquelles les confédérations syndicales l'ont cantonné. Le mouvement a été déclenché à l'initiative de la CGT et de Sudrail, qui l'ont assumé jusqu'au bout. Mais elles ont pris soin de le situer dans le cadre unique de la réforme. Les objectifs étaient exprimés de telle façon que le reste de la classe ouvrière ne puisse pas se sentir concerné et encore moins entraîné. Au contraire, revendiquer les embauches, l'amélioration des conditions de travail et de meilleurs salaires, ce sont bien là les exigences à opposer aux attaques contre nos conditions d'existence, les attaques de tous les travailleurs confrontés aux mêmes attaques que nous. Et il faudra l'avoir en tête lors du prochain mouvement. Mais plusieurs milliers de cheminots ont relevé la tête, en particulier une nouvelle génération de jeunes a pu mener son premier combat. Suite à la grève, la direction a multiplié les procédures disciplinaires et les menaces de sanctions, pouvant aller jusqu'à la révocation envers de nombreux grévistes et militants syndicaux. Sur la région de Lyon, la direction s'est attaquée à 10 militants syndicaux pour fait de grève. À Toulouse, la direction tentait d'intimider les grévistes de juin en poursuivant, y compris sur le plan pénal, 19 d'entre eux, essentiellement des élus et des militants syndicaux. Chaque convocation donnait lieu à des débrayages et des rassemblements de solidarité. La région Auvergne-Nivernais a connu le record des poursuites pour fait de grève, 180 procédures disciplinaires. À Paris-Nord, 6 militants syndicaux ont aussi été menacés de sanctions allant jusqu'à la révocation. Ils s'opposaient à la suppression de la présence systématique de contrôleurs à bord des trains. Un préavis avait été déposé pour le jour de leur entretien préalable. Le rassemblement prévu avait regroupé 300 cheminots. Il s'agissait d'une offensive décidée au niveau national, visant clairement les grévistes et parmi eux les militants organisateurs de la grève de juin ou de mouvements plus récents. La direction tentait ainsi de casser toute volonté de résistance à sa politique. Mais il est notable que des réactions de solidarité ont eu lieu, obligeant la direction à reculer sur nombre de menaces. La réforme ferroviaire se met donc en place, et avec l'éclatement de la SNCF dans le but de séparer totalement les infrastructures de l'exploitation. Nous avons ainsi depuis le 1er janvier 3 entreprises distinctes. D'une part, SNCF Réseau, chargé de l'entretien des voies et des postes de circulation, entre autres. D'autre part, SNCF Mobilité, chargé de l'exploitation des lignes. Enfin, la troisième entreprise est censée chapeauter les deux premières, mais c'est une coquille vide dont les quelques fonctions peuvent être externalisées rapidement. La SNCF n'existe plus et SNCF Mobilité n'est plus qu'un transporteur parmi d'autres, qui sera de plus en plus soumise à la concurrence du privé, en particulier dans le transport voyageurs. Avec cette réforme, la direction veut bien évidemment imposer plus de flexibilité et de rentabilité. Elle prévoit ainsi 1,2 milliard d'économies pour SNCF Mobilité d'ici 2020, qu'elle compte bien obtenir par l'augmentation de la productivité du travail. Le rapport d'expertise réalisé dans le cadre de la consultation du CCE sur la réforme ferroviaire évoque la suppression de 10 000 emplois entre 2015 et 2020. Côté SNCF Réseau, vu l'état lamentable des lignes dont elle doit assurer l'entretien, les suppressions d'emplois ne sont prévues qu'après 2020. En revanche, la réforme prévoit là aussi, sous prétexte de diminuer la dette, une économie de 500 millions d'euros par an d'ici 2020. Pour combler cette dette et continuer à engraisser les banquiers, SNCF Réseau devra d'une part augmenter les péages pour l'utilisation des voies, d'autre part fermer de nombreuses lignes secondaires. Celles-ci n'étant plus entretenues depuis bien longtemps, leur entretien ou leur régénération sont jugés trop coûteux. Les dirigeants de la SNCF préfèrent les supprimer purement et simplement et les remplacer par des autocars. Et justement, la loi Macron a fait sauter le dernier verrou et permet désormais la libre circulation des autocars sur le territoire. Ce sont des milliers de kilomètres de lignes qui sont directement menacés, et tant pis pour les usagers devant renoncer aux trains régionaux ou interrégions. Pour les cheminots, la réforme ferroviaire, c'est aussi la fin de la réglementation du travail actuelle, puisque celle-ci va être remplacée par une convention collective au rabais, en cours de négociation avec le patronat du transport privé et public du secteur. Congés, amplitude de travail, récupération, salaire, emploi, tout est dans le collimateur du patronat et de la direction SNCF. En ce qui concerne les salaires, Pépi avait annoncé dès la fin de l'année dernière que d'après lui, l'augmentation de la masse salariale était trop importante. Bien sûr, il ne parlait pas de son salaire de 250 000 euros, par an, lui qui touche par jour ce qu'un jeune embauché touche par mois. La question a donc été tranchée, il n'y aura pas d'augmentation générale des salaires cette année. En ce qui concerne les effectifs, c'est moins spectaculaire que la fermeture d'une usine, mais cela a le même impact sur l'augmentation du chômage. La SNCF a annoncé pour cette année 1600 suppressions de postes pour SNCF Mobilité, en particulier parmi les contrôleurs et les agents de vente ou d'accueil. Dans chaque région, les postes de vente sont supprimés par dizaines. En 3 ans, près de 2000 emplois ont été supprimés à la vente et en 2014, plus de 80 points de vente ont été fermés. Par ailleurs, la direction a annoncé sa volonté de privilégier le recours à de l'intérim pour des contrats de courte durée dans les gares, allant jusqu'à dire qu'il fallait se rapprocher de ce qui se fait en la matière dans l'industrie automobile. Mais cela va bien plus loin encore, puisque désormais, il n'est plus nécessaire d'avoir des vendeurs SNCF pour vendre des billets. À Dijon, la vente a tout simplement été confiée à une filiale, Effia Synergie, et la gare de Grenoble verra se mettre en place un espace de vente de 8 postes qui sera tenu pour moitié par des cheminots SNCF et pour moitié par des salariés d'une filiale de Transdev Veolia. Les vendeurs seront ainsi mis en concurrence et d'ici 2017, le marché sera attribué à l'une des deux entreprises. Cette expérimentation devrait s'étendre à de nombreuses régions dans l'avenir, puisque leur outil de vente va être mutualisé entre toutes les régions pour pouvoir précisément confier la distribution des billets à d'autres exploitants que la SNCF. Cela permettra évidemment à la direction de faire pression sur les cheminots pour tenter de leur faire accepter la dégradation des conditions de travail et de vie à travers la menace de la concurrence. Les cheminots des ateliers de maintenance de la SNCF ne sont pas mieux lotis. On assiste à la fermeture programmée d'ateliers mais on voit aussi les régions revendiquer la propriété des ateliers dans lesquels elles ont investi. Jusqu'à aujourd'hui, la SNCF était propriétaire de ces ateliers. Si cette propriété passait aux régions, elles pourraient décider de confier une partie de la maintenance de leur TER à l'entreprise de leur choix. Autre exemple, une nouvelle ligne est en train d'être construite en Île-de-France, la tangentielle légère Nord, sur laquelle circuleront des trams-trains. Il était prévu initialement que cette ligne soit rattachée à Paris-Est. Il n'en est plus question aujourd'hui. C'est une nouvelle filiale créée par SNCF et Keolis qui exploitera la ligne. Tous les agents seront embauchés par cette filiale, qu'ils conduisent des trains ou qu'ils interviennent dans les gares. La plupart de ces changements impliquent des suppressions massives d'emplois. Les cheminots s'opposent quotidiennement à ces suppressions. Dans les ateliers, les gares ou les chantiers, c'est une des principales causes de conflits. Les voyageurs subissent également les conséquences de la réforme ferroviaire. De rapport de Cour des comptes en rapport interne de la SNCF, on retrouve toujours la même constante, diminuer les dessertes secondaires et augmenter les prix. Mais les conséquences pour les voyageurs concernent aussi la sécurité des circulations. Les différents rapports concernant l'accident de Brétigny mettent en évidence la responsabilité accablante de la SNCF et de RFF. Ils indiquent la vétusté des installations et les conséquences dramatiques des coupes dans les effectifs chargés de la surveillance et de l'entretien des voies. Tout ce qui vient d'être décrit existait bien sûr à des degrés divers avant la réforme, mais il est évident que cela va s'amplifier et s'accélérer. L'externalisation existait déjà, mais désormais, c'est par exemple la vente des billets sur toute une région qui pourra être réalisée par une entreprise privée ou tout un atelier qui pourra être confié à une entreprise privée. Ce sont des postes stables qui seront remplacés par des postes souvent en CDD ou de toute façon n'offrant pas la même sécurité d'emploi. C'est une vaste précarisation de tout un secteur de l'économie qui pourrait se produire. Les attaques en cours à la SNCF sont les mêmes que celles qui frappent l'ensemble des travailleurs. La soif de profit du patronat public et privé n'a pas de limite. Pas de limite autre que la résistance, la riposte des travailleurs. Le patronat et le gouvernement ne craignent pas les réactions des organisations syndicales. À l'échelle nationale comme à l'échelle de la SNCF, le souci des directions syndicales dans cette période de démolition générale est de préserver leur appareil. Elles ont les yeux rivés sur les pertes ou les gains qu'elles peuvent escompter en termes de postes, de volume d'heures, comme s'il s'agissait d'un but en soi. Ne parlons pas de l'attitude de la CFDT ou de l'UNSA, qui se sont rangées ouvertement dans le camp de la direction en soutenant la réforme ferroviaire et en s'opposant aux grèves. La CGT, Sudrail ou FO, elles ont, à juste titre, refusé de soutenir cette réforme. Mais elles espèrent surtout tirer les bénéfices électoraux du rejet de la réforme. Pas de mettre en échec son application, pas d'empêcher les suppressions d'emplois, la dégradation des conditions de travail qui en découlent. Pour cela, il faudrait sonner la mobilisation générale, appeler à construire la riposte en réponse à la guerre ouverte par la direction et le gouvernement. Ce n'est pas l'objectif des directions syndicales qui, chacune à leur manière, accompagnent et collaborent avec le gouvernement. Oh, il y a bien eu quelques journées d'action dans la plus pure tradition des journées rituelles, sans boulot préalable et sans suite programmée. Il est vraisemblable que ce train-train syndical va continuer si cela ne dépend que des bureaucraties, sans évidemment inquiéter le gouvernement. Mais il y a une autre voie. Les cheminots et les militants de base, eux, vont payer cash dans leur vie quotidienne les attaques programmées par le patronat ferroviaire dans les années à venir. Ils ont toutes les raisons de souhaiter un mouvement qui se propage au-delà des corporatismes, au-delà des établissements et au-delà même de la SNCF. Nous avons la conviction que la SNCF et le gouvernement vont se charger encore mieux que les militants révolutionnaires de convaincre qu'il n'y a pas d'autre issue que la lutte classe contre classe. Mais il faut aussi des militants, des travailleurs qui propagent cette perspective, cette conscience. C'est possible en cas de réactions locales, cheminots face... Oh là là, c'est possible en cas des réactions locales des cheminots face aux attaques. Car les cheminots sont loin d'être abattus et nous verrons avec mes camarades quelques-unes de ces réactions. Notre souci dans ces mouvements est d'aller au bout de ces possibilités. de faire faire au maximum de travailleurs l'expérience de la lutte, d'être des militants de cette grève, de son extension à d'autres secteurs, d'autres catégories. Cela n'est pas toujours possible, mais quand c'est le cas, pour que cela ait lieu, il faut de toute façon des militants qui défendent cette politique et la proposent à leurs camarades grévistes, y compris par-dessus la tête des directions syndicales. Mais ce travail préparatoire d'un mouvement général doit s'effectuer tous les jours, sur toutes les gares et les chantiers, même en dehors de tout mouvement. Il faut s'entourer, regrouper, armer politiquement le maximum de travailleurs, leur expliquer les plans de leurs adversaires déclarés, patronat et gouvernement, mais aussi avertir sur la nature des bureaucraties syndicales qui n'organisent pas la riposte aujourd'hui, mais tenteront de la torpiller demain si elle dépasse le cadre acceptable par la bourgeoisie. Il faut aussi convaincre de la force des travailleurs quand ils se mettent en branle. En un mot, il faut voir autour de nous tous les travailleurs conscients des intérêts de leur classe, qui défendront la politique de leur classe dans les futurs événements. Voilà le travail, sans doute souterrain mais indispensable, que nous devons effectuer aujourd'hui, car il permettra le moment venu de s'appuyer sur la force collective des travailleurs pour renverser la table et imposer les revendications du monde du travail. Donc je vais passer maintenant la parole à Cécile, qui va nous parler de Lyon.
Donc sur la région lyonnaise, les suppressions de postes touchent de nombreux services, donc au guichet, en gare, au matériel, à la traction, sur les plateformes fret ou dans les bureaux, au fret également, à l'infralogue, au service des achats. À Oullins, en banlieue lyonnaise, la fermeture des ateliers de réparation des locomotives a été annoncée pour 2019. Et cela représente environ 850 emplois. Il faut dire que les ateliers de Oullins constituent un morceau de choix pour les promoteurs immobiliers. Cette année, une première réorganisation va supprimer 92 postes. La direction affirme que tous les cheminots bénéficieront d'une mutation. Mais rien n'est moins sûr, sans compter bien sûr le sort réservé aux intérimaires. Donc dans plusieurs secteurs directement attachés, pas forcément à Oullins, mais directement attaqués, il y a eu des réactions. En février, il y a eu un arrêt de travail massif des contrôleurs suite à une grave agression, par exemple. Et à noter que la direction a cédé, elle a créé 4 postes, et embaucher 4 CDD. Ce qui l'a visiblement fait réfléchir très très vite, c'est la menace réelle que le mouvement s'étende. Chez les conducteurs TER, un mouvement a eu lieu pour réclamer des effectifs. Le dépôt compte 140 agents, et ils étaient environ 40 aux AG lors de débrayages sur plusieurs vendredis. Ce mouvement n'est pas parti des syndicats, et puis a été soutenu par Sudrail. Il a impliqué des collègues non syndiqués qui ne militent pas d'habitude et qui ont essayé eux aussi d'entraîner d'autres collègues. L'exaspération est grave sur ce dépôt face aux congés refusés, au manque d'écoles de conducteurs et surtout aux tournées de plus en plus chargées. Avec le cadencement, les conducteurs conduisent non-stop pendant 6h30, 7h. Et lorsqu'ils changent de bout, c'est-à-dire entre l'arrivée d'un train et le départ d'un autre, ils n'ont pas le temps d'aller aux toilettes ou de souffler 5 minutes. Ainsi, une petite phrase est devenue célèbre pendant ce mouvement. tu la connais, tu vois ce qu'elle se marre. Une petite phrase est devenue célèbre pendant ce mouvement, car face à un cadre arrogant lors d'un envahissement d'une réunion, un collègue, d'ailleurs plutôt réservé d'habitude, a lâché « En 2015, je pisse !» pour marquer son ras-le-bol face aux cadences. Et donc, bon, pour ceux qui ne comprennent pas ce problème pressant et récurrent des conducteurs, réguliers, mais là qui s'était accentué, donc voilà, il voulait dire qu'il prendrait le temps d'aller aux toilettes, et parce que même pisser, on demande de se battre, quoi. Donc, la direction, au long de ce mouvement, a contesté de sa légitimité, puisqu'il n'était pas encadré par les syndicats, mais elle a bien dû se résoudre à recevoir les grévistes. Au final, les grévistes, les collègues sont un peu déçus parce que ce mouvement n'a pas permis d'entraîner plus de collègues dans le mouvement et n'a pas permis d'obtenir les effectifs espérés. Néanmoins, un groupe s'est formé et se sent plus légitime pour s'autoriser à prendre des pauses. En gare, voyageurs, depuis avril, des vendredis samedis de grève contre des suppressions de postes dans les gares de Perrache et Pardieu. Donc à Lyon-Pardieu, c'est une des plus grandes gares d'Europe en termes, pas tout court, en termes de nombre de correspondances. Donc ça correspond à peu près à 100 000 passages par jour, et donc cette gare est très largement sous-dimensionnée. Donc le rôle des agents de quai, qui est de fluidifier et de favoriser les correspondances, donc c'est ça leur rôle. Alors donc, quand la direction a annoncé 20 suppressions de postes, les agents ont réagi, car cela voulait dire à coup sûr, donc plus de retards de TGV, plus de voyageurs qui se trompent de train, des chutes dans les escaliers, des cris, des agressions sur les quais, etc. Donc cela reposant bien sûr sur les agents qui restent. Et c'est ce qui a motivé ces week-ends de grève. Donc la direction a commencé à reculer et a annoncé une suppression de seulement 13 postes au lieu de 20. Donc voilà. Néanmoins, ça n'a pas empêché qu'au premier week-end, ils étaient 100 à l'Assemblée Générale et qu'ils ont envahi la direction. Ensuite, pour les deuxième et troisième week-ends, ils étaient entre 40 et 50. Ils ont été interpellés des collègues non grévistes et des usagers. Ce conflit est toujours en cours puisqu'un autre week-end est prévu en juin. Donc malgré les difficultés néanmoins à entraîner les collègues, il y a quand même quelques réactions qui ne stoppent pas les attaques, mais bon, qui contraignent la direction à freiner. Donc par exemple, également, il y a la suppression des contrôleurs dans les TER qui n'a pas été mise en place, malgré le fait que l'équipement nécessaire est installé. La direction y va à pas compter car il y a parfois des réactions. Et là, donc, elle vient de demander aux conducteurs d'assurer une partie des annonces que les contrôleurs faisaient, mais les agents résistent et ne le font pas. Donc voilà, ces volontés de résister d'une partie des cheminots donc, est regonflante et peut être un point d'appui pour des militants pour ralentir les attaques.
Donc bonjour, moi je suis conductrice au dépôt de Rennes. Alors là-bas aussi, hein, comme à Lyon, c'est difficile d'aller aux toilettes, mais la direction, c'était pas prévu, je le dise, mais elle a prévu de nous distribuer des petits entonnoirs jetables. Donc voilà, si. Alors bon, c'était pas de ça dont je devais parler, mais je peux vous raconter les quelques réactions récentes qu'il y a eu dans mon secteur face aux attaques des patrons donc de la SNCF. Alors ça remonte à il y a plusieurs mois, c'était début décembre, si vous vous souvenez. La CGT et Sudrail avaient appelé à la grève à l'échelle nationale. Donc 2 jours, les contrôleurs de train, et pour une seule journée, le reste du personnel. Et si les revendications qui portaient sur les salaires, l'emploi, les conditions de travail répondaient aux problèmes des cheminots, l'appel, lui, était comme d'habitude lancé par les directions syndicales, sans grand souci de permettre aux militants d'y associer efficacement les travailleurs. Mais malgré tout ça, la grève a été peu suivie dans la majorité des secteurs, mais par contre, les journées du 5 et 6 décembre ont eu un écho favorable chez les contrôleurs de train. La raison essentielle de leur mécontentement, c'était, comme dans d'autres régions, l'annonce, quelques mois auparavant par la direction, de supprimer la présence des contrôleurs sur les trains express régionaux autour de Rennes. C'est-à-dire le fait de supprimer encore des postes, cette fois-ci au contrôle, et de mettre en place des trains appelés à équipement agent seul, c'est-à-dire avec seulement le conducteur à bord, sans le contrôleur donc. Avant la grève, ce sont les contrôleurs eux-mêmes qui en parlaient autour d'eux. Et se moquant cette fois, si le préavis était national ou local, ou s'il était à l'appel de tous les syndicats, ou d'un seul. Tandis que les militants syndicaux étaient plutôt à la traîne, pensant d'avance que cela ne serait pas suivi, un certain nombre de contrôleurs, surtout les plus jeunes d'ailleurs, ont discuté avec les conducteurs de train qu'on puisse faire ces 2 jours de grève ensemble, vu qu'on avait les mêmes problèmes. En effet, alors qu'avant il y avait un voire 2 contrôleurs présents sur tout le trajet pour, en cas d'incident ou de retard, aider les usagers, il n'y aurait plus personne désormais la plupart du temps. La volonté des patrons, c'était de mettre en place des brigades, c'est-à-dire des sortes d'équipes, de 2 par exemple, hein, de 3 peut-être, qui viendraient contrôler et sanctionner les voyageurs au nom, d'après l'entreprise, de la lutte anti-fraude qui est devenue sa priorité. Mais en réalité, ce ne sont pas uniquement les cheminots qui sont attaqués, mais aussi les usagers. Car dans de nombreux endroits, les voyageurs n'ont pas d'autre choix que d'acheter les billets à bord des trains. Ils les payent donc plus cher. Et s'il n'y a plus de contrôleurs dans les trains pour leur vendre un billet, eh bien ils auront le droit à une amende majorée s'ils sont pris en flagrant délit de fraude par une brigade. Alors si déjà des trains circulaient sans contrôleurs par manque de personnel, les conducteurs, quant à eux, ne voulaient pas être systématiquement seuls à gérer la conduite des trains, les incidents techniques, les procédures de sécurité et les usagers. Donc, sous la pression d'un certain nombre de conducteurs, à Rennes notamment, la CGT a finalement dû déposer un préavis à la conduite, même si elle n'a pas appelé à la grève. Et surprise, les 5 et 6 décembre, la grève a été suivie à 70%, comme je le disais, chez les contrôleurs, mais aussi à plus de 50% chez les conducteurs de train. Sachant que le syndicat majoritaire catégoriel n'appelait pas, et que nous avions eu quelques jours seulement pour organiser le mouvement, ça a été ressenti par les travailleurs et même par les militants, qui étaient plutôt réticents au début, comme une réussite. Surtout aussi que le rassemblement qui a eu lieu lors de ces journées de grève, donc c'était le 5 décembre, il avait fallu aussi l'imposer au syndicat, ce rassemblement, il fut lui aussi réussi. Nous nous sommes retrouvés, contrôleurs et conducteurs, avec quelques autres cheminots, à une centaine, pour interpeller ensemble la direction du contrôle. Et là, il y avait pas mal d'ambiance. La patronne prétendait qu'en cas d'incident, le contrôleur ne servait à rien. Bientôt, cela se passerait mieux sans lui, en fait. Et qu'une équipe de renfort, dans tous les cas, interviendrait si nécessaire. Pourtant, 3 jours avant la grève, une collision avait eu lieu entre un train express régional qui était lancé à 140 km/h et un camion Smirnoff qui lui était bloqué sur un passage à niveau. Le conducteur du train, qui était blessé et sous le choc, avait pu alors compter sur son collègue du contrôle pour prendre les mesures nécessaires en attendant les secours qui, eux, sont arrivés au bout d'une demi-heure. Et quant aux fameux renforts annoncés par la direction, eh bien c'est de la fumisterie, ils ne sont jamais arrivés. Alors, après ces 2 jours de grève, qui étaient pourtant réussis, aucune suite collective n'a été proposée aux travailleurs par les directions syndicales. La seule chose qui leur a été proposée, c'était éventuellement d'appeler à la grève le jour de la mise en place du projet des patrons, là, de remise en cause des contrôleurs à bord des trains, c'est-à-dire le 16 mars en 2015, donc c'était 3 mois après. Donc les travailleurs et les militants qui voulaient faire quelque chose attendaient plutôt un préavis régional, donc à l'échelle de la Bretagne, et un préavis intersyndical. Ce ne fut pas le cas. Il y eut des préavis, mais il y en a eu un pour les contrôleurs qui furent rappelés à la grève le 16 mars, et d'un autre côté, les conducteurs, eux, furent rappelés à la grève le lendemain, donc à partir du 17 mars, avec possibilité de le reconduire. Et quant aux autres cheminots, eh bien, ils ne furent même pas mis au courant, ils ne furent pas associés. Eh bien, là encore, pourtant, le 16 mars, plus de la moitié des contrôleurs ont à nouveau fait grève, et le lendemain, la grève fut encore plus suivie par les conducteurs de train. Entre le 17 et le 19 mars, 80% d'entre eux, dans toute la région donc, auront participé d'une manière ou d'une autre au mouvement. Même ceux qui n'étaient pas en grève mais qui étaient en formation, ces jours-là, ont refusé de conduire les trains des grévistes. Alors les travailleurs, ils n'ont pas réussi à faire reculer les patrons qui ont mis en partie leur projet en application. Mais quand même, nous pensons nous que ces réactions, même si elles sont limitées, elles sont malgré tout positives, au moins pour le moral et les liens qui se sont renforcés entre les travailleurs. Et puis on peut constater que, alors que les appels syndicaux étaient à chaque fois sans perspective, les travailleurs, d'une certaine façon, ils s'en sont saisis. y compris en forçant un petit peu la main des directions syndicales locales. Alors je pense qu'en tant que militant, on doit y être attentif et on doit discuter de tout ça autour de nous, hein, de leurs aspects positifs, pour que la base et les travailleurs, les militants, s'en fassent eux aussi l'écho et les propagandistes.
Alors bonjour à tout le monde. Donc fin 2014 à Nantes, la direction de l'établissement TGV a décidé d'annoncer son intention de voir disparaître le métier de chef quai, aussi appelé agent d'expédition, dans les gares du Mans, d'Angers et de Nantes. Son but, le faire avant la fin de cette année 2015, en jurant la main sur le cœur que cela ne donnerait lieu à aucune suppression de poste, enfin dans un premier temps. Cette décision fait partie d'un plan d'ensemble de la direction nationale de la SNCF, qui veut continuer à faire des économies à tout prix en supprimant un maximum de postes de cheminots, comme elle l'a fait ces dernières années pour les vendeurs au guichet dans toutes les gares, et y compris celles de la région. C'est la réforme ferroviaire qui continue à se mettre en place progressivement. Dès le mois de janvier, une pétition a donc circulé contre ce projet. Elle a rapidement été signée par plus de 200 cheminots de la gare de Nantes, de tout métier et surtout par des contrôleurs et des conducteurs. La direction n'a pas reculé d'un pouce, évidemment, à l'époque. Alors la suite logique était donc le dépôt d'un préavis sur l'établissement TGV, signé par la CGT dont je fais partie en tant que représentant élu du personnel et qui est majoritaire sur l'établissement, ainsi que Sudrail, la CFDT est soutenue par FO. Le fait de déposer un préavis long allant du 31 mars 2015 au 31 décembre 2015 nous permet d'appeler à la grève sur des journées ciblées sans avoir à respecter un délai de 16 jours pour pouvoir se mettre en grève. Dès le dimanche 31 mars, le mouvement était lancé, prenant de court la direction, qui a été surprise, comme d'ailleurs de nombreux militants, par la participation de cheminots peu enclin à la grève et qui n'avait pas participé ou peu à la grève du mois de juin dernier. La direction, à force de vouloir tirer sur la corde, a finalement réussi à faire l'unanimité contre sa politique de suppression de postes. En gare de Nantes, nous avons ensuite fait grève trois autres journées ciblées au mois d'avril en nous rassemblant en assemblée générale. Ce qui est ressorti à chaque fois des AG qui ont regroupé 70 grévistes en tout, c'est qu'il fallait élargir notre mouvement, notamment au roulant, que la direction s'apprête aussi à attaquer avec la suppression des contrôleurs à bord des trains. Un tract a d'ailleurs été fait pour informer les cheminots de la région du mouvement en cours dans les gares de la région. Et finalement, à l'appel de la CGT Sud, CFDT et FO, la jonction s'est faite avec les contrôleurs et les conducteurs le mercredi 13 mai pour cette première journée de grève commune avec une AG interservice à 130 participants à Nantes et 60 au Mans. Ces deux secteurs ayant eux aussi déposé des préavis longs jusqu'au 19 juin 2015. Les militants qui ont tenu des permanences, fait des tournées pour préparer ce 13 mai, ont tous rapidement senti que cela marchait et que les discussions autour de la grève prenaient. Finalement, le mouvement des agents des gares a fait tache d'huile. À Nantes, à l'AG du 13 mai en gare, nous avons tous voté pour reconduire la grève au 22 mai. Ce jour-là, c'est l'occasion, là encore, de nous rassembler avec de nouveaux secteurs en grève, les aiguilleurs, les agents circulation de l'établissement circulation et les agents du TER. De son côté, la direction de l'ETGV, l'établissement TGV, a commencé à reculer en repoussant d'un an et demi la mise en place de son projet, et qui sait ce qui peut se passer d'ici là. C'est toujours ça de gagner, alors oui, c'est une petite victoire pour le moment, mais ce n'est pas rien quand même. Et sans la participation d'une grande partie des agents des gares rejoints par les contrôleurs et les conducteurs, le curseur n'aurait même pas bougé d'un pouce. Ce premier recul de la direction régionale a été perçu comme tel et est un encouragement à continuer le mouvement. Donc, vendredi dernier, le vendredi 22 mai, nous étions autour de 200 à l'AG avec de nouveaux cheminots qui rejoignent la grève et notamment des jeunes. À l'AG, là encore, regonflé par le nombre croissant de grévistes et de participants à l'Assemblée, nous avons voté la reconduction du mouvement pour une nouvelle journée de grève le vendredi 5 juin, avec de nouveaux secteurs qui vont rejoindre le mouvement. Du côté des directions syndicales et notamment de la CGT, ce mouvement n'a pas eu la cote jusqu'à présent, il faut bien le dire. Et il faut bien le dire, c'est organisé autour de quelques militants de base de différents syndicats. C'est peut-être en train de changer puisque les responsables syndicaux régionaux s'aperçoivent que la grève prend marche et ils ont certainement envie maintenant de reprendre les choses en main. Cela peut apporter des forces supplémentaires, à condition bien sûr que cela continue à pousser dans le sens de la grève et que les grévistes gardent le contrôle du mouvement. Ce contrôle passe pour l'instant par les AG interservices qui discutent et décident. En tout cas, ce mouvement est une véritable bouffée d'air frais et démontre bien que malgré la grève du mois de juin qui n'a pas abouti au retrait de la réforme, il reste encore des capacités de réaction intactes quand les directions régionales essayent de la mettre en application. À condition aussi qu'il y ait des militants pour animer les mouvements, les faire vivre avec la volonté de les élargir aux autres secteurs qui seront tôt ou tard aussi touchés par les attaques. Cela, pour l'instant, ne vient pas des directions syndicales et encore moins des fédérations. Mais ce qui s'est passé à Nantes prouve que des réactions sont possibles et qu'on peut les organiser collectivement, et c'est tant mieux.
Voilà, donc on a fait un petit peu le tour, donc avec un point de vue un peu général. Donc voilà, on a fait un peu le tour avec un point de vue général, déjà, enfin un point de vue sur la situation générale à la SNCF liée à la réforme. On a vu un peu localement comment ça pouvait se traduire ou les réactions qu'il pouvait y avoir. Bah maintenant, on peut ouvrir le débat. Donc il y a un micro qui va se promener. Et voilà, toutes les interventions sont bienvenues.
Bonjour à tous, moi je suis conducteur tram-train à Nantes, donc je voulais revenir sur l'EAS, donc l'agent seul. Nous on est complètement agent seul, en fait on a des agents à bord du train mais qui ne sont pas du tout contrôleurs, ils sont agents commerciaux, donc ils ont le même travail que les gens au guichet, ils sont juste là pour vendre des tickets. Et ils peuvent mettre des amendes aussi, mais pour ceux qui savent, contrôleur, le mot contrôleur c'est réducteur, parce que le contrôleur il contrôle pas, enfin il contrôle mais... Il fait énormément de choses pour aider le conducteur et nous, du coup, on n'a plus ça. Et en tant que conducteur, on est absolument tout seul. En plus, nous, la particularité, contrairement aux autres conducteurs, c'est qu'on part sans personne. Donc, on part de nous-mêmes du quai. On ouvre nous-mêmes nos signaux. On ferme certains de nos passages à niveau avec les boutons à l'intérieur. Et donc, en fait, on a un plan de travail de tramway, quoi. Il y a des trucs il y a des boutons qui ont disparu, contrairement au tramway urbain, mais ils nous ont laissé 3, et c'est des boutons qui servent à contrôler les aiguillages. Donc pour l'instant, en fait, ils ne sont pas actifs, mais le truc, c'est qu'ils fonctionnent, donc les aiguillages ne bougent pas pour l'instant. En plus, ces boutons-là nous mettent des pannes sur le train, et au lieu de désactiver complètement, ben, ils les ont laissés. C'est-à-dire qu'ils ont réparé les pannes, et ils disent « Non, mais vous inquiétez pas, ça ne servira pas », mais le système reste complètement actif. Donc voilà, à mon sens, c'est ça l'avenir de l'EAS, hein. C'est des conducteurs qui contrôlent absolument tout, même sur leurs lignes, leurs signaux et tout. Nous, on contrôle, c'est nous qui fermons nos signaux, qui les ouvrons. Et juste une petite anecdote, dernièrement, là, j'avais donc deux rames en UM, la rame arrière, le disjoncteur s'est pas refermé. Et là, à ce moment-là, y a pas mal de choses à faire, donc il faut se porter soi-même le secours et tout. Et quand vous êtes tout seul, eh ben, je peux vous dire que moi, mes deux trains étaient bondés, il a fallu que je fasse une évacuation, donc que j'amène les gens à la rame avant. Donc déjà, tout seul, c'est très long. Ça marche plus, petit. Tout seul, c'est très long. Et surtout, bah, vous vous faites insulter et tout. Le renfort, bah, ça marche sûrement sur les PN et tout, mais ça marche pas quand vous êtes en pleine pampa. Donc moi, personne n'est venu m'aider. Et il y avait un fauteuil roulant à changer, quoi. Donc vous voyez mon gabarit, bah, moi, j'ai pas la force de porter quelqu'un. Enfin, j'ai pas la force de porter quelqu'un sur une longue distance. Et bah, du coup, j'ai dû demander de l'aide aux usagers. J'ai dû dire, bah, descendez avec moi, on a porté le fauteuil. En plus, c'est un fauteuil électrique. Donc voilà quoi. Donc le AS, c'est vraiment la galère pour le conducteur. Et alors vraiment pour l'usager, c'est moi je sais que la SNCF, la direction, tout le monde s'en fout, mais pour l'usager, c'est vraiment une galère le AS quoi. Voilà.
Salut tout le monde. Alors moi je suis chef de bord, c'est-à-dire contrôleur à Strasbourg. Alors juste pour rajouter des trucs, l'histoire du bouton, il y a aussi d'autres trucs beaucoup plus visibles pour le voyageur. Chez nous à Strasbourg, enfin sur la région de Strasbourg, ils ont fait un affichage dans le train où il y a deux numéros de téléphone en cas d'urgence. C'est bien pour supprimer le contrôleur. Et Le résultat des courses aussi, pour côté voyageurs contre le chiffre d'affaires, bon, pour en parler quand même un petit peu, les abonnements hebdomadaires et mensuels commencent à disparaître. Les gens prennent des carnets de 10 billets, donc il y a moins d'argent. Et puis, et si jamais le contrôleur y passe, il dit j'ai oublié de composter. Alors, donc c'est donc tranquille, quoi. Donc il y a moins d'argent qui rentre. Et ils font aussi une annonce, les annonces automatiques qu'il y a dans les trains, les annonces, ils annoncent les gares, etc. Et le petit rajout qu'ils ont fait à la fin, c'est garder bien les billets jusqu'à la sortie de la gare, parce que vous risquez d'être contrôlé à quai ou à la sortie du train. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Salut camarade, je suis à la fraction L'Étincelle, je bosse dans la gare de Saint-Lazare. On a bien compris que le but de la boîte, c'est de faire le maximum d'économies sur notre dos, voire le maximum de profits. Et pour ça, ça passe par les suppressions de postes. Et en fait, pour continuer à supprimer autant de postes à un rythme de 1000 à 2000 par an, comme ont rappelé les copains, en fait, à un moment donné, il faut qu'ils touchent à la réglementation du travail. Il faut qu'ils nous suppriment des jours de repos, faut qu'ils augmentent les amplitudes, faut qu'ils nous fassent bosser plus. C'est le sens de la convention collective qu'ils vont essayer de mettre en place. Parce qu'en fait, sur le terrain, ce qu'on constate, c'est qu'on est au taquet total de la réglementation du travail telle qu'elle existe aujourd'hui, voire même qu'elle est plus suffisante par rapport à la charge de travail qu'on a, étant donné qu'on est de moins en moins à faire le même boulot. Et du coup, sur le terrain, ce qui se multiplie, c'est la pression de la hiérarchie qui demande des services du style « Ah ben, sur ton poste de soirée, on sait très bien que de 22h à minuit, tu fais pas grand-chose. Il y a un absent sur tel poste, tu pourrais de 22h à minuit passer sur l'autre poste et tenir deux postes pendant ton service, en fait. » Ou alors, au conducteur, ah ben, quand même, là, on est emmerdé, on a un problème de production, tu pourrais bien nous faire un train supplémentaire. Et en fait, ces pratiques-là, elles se généralisent et elles s'accompagnent de pressions, y compris de sanctions. Là, sur Saint-Lazare, en une année, on a eu plusieurs cas de copains sanctionnés parce qu'ils ont refusé de rendre service à la boîte. La boîte, elle sait très bien qu'elle a pas qu'elle n'est pas dans son droit, qu'elle n'a pas le droit d'attaquer les collègues et de mettre ses sanctions, mais elle y va quand même. Alors sa politique, heureusement, elle ne va pas sans réaction. En mars, à Saint-Lazare, ils avaient justement mis un avertissement à un conducteur qui avait refusé de faire un train supplémentaire pour les dépanner. Dans la foulée, ils avaient bloqué la position de rémunération qu'il devait prendre aux notations en s'appuyant sur la sanction. Bon, il se trouve que le camarade, en plus, c'était un délégué du personnel Sudrail, combatif, un gars sympa. Et en fait, les conducteurs ont décidé qu'ils ne laisseraient pas passer ça et ils ont débrayé. Vraiment, c'était en mars, je ne me rappelle plus quel jour, mais ils ont débrayé à plusieurs dizaines. C'était pas un droit de retrait, il n'y avait pas eu d'agression. Vraiment, ils ont stoppé le boulot comme ça pour protester. Le DET a été obligé de se pointer dans les locaux, bien sûr, a commencé par dire « je suspends la sanction, on va faire des réunions pour en discuter et tout ». Et plus l'heure de pointe arrivait, bon, bah, plus forcément les gars lâchaient pas et la pression augmentait. Et le DET a été obligé de lever la sanction. Et ça a été quand même une victoire qui a fait très plaisir sur la gare et qui a montré qu'on était capable de les faire reculer là-dessus. Il y a un autre truc dont je voulais parler, je vais essayer de faire court. Mais là, dans quelques mois, ce qui va se passer, c'est qu'il y a tous les contrats d'avenir que la boîte a pris au début du règne de Hollande en 2012, quand il a lancé les contrats emploi avenir. Et en fait, on ne sait pas selon les coins quels vont être les calculs de la boîte. Il y a peut-être dans des coins, ils vont embaucher 50% des contrats d'avenir, peut-être dans d'autres 70%, peut-être dans d'autres 30%. Mais ce qui est sûr, c'est que dans nos coins, je pense qu'il va falloir être attentif à ça. Il y a une copine à Lyon, par exemple, les camarades qui sont en contrat d'avenir dans son coin, ils arrivent au taquet des 3 ans en juin. À Saint-Lazare, ça va pas mal se passer en décembre. Et c'est sûr que ça peut être quand même une sacrée épine dans le pied de Hollande si à ce moment-là, il y a des bagarres et qu'il y a des gens, des militants, qui rappellent publiquement quand même que sa fameuse lutte contre le chômage, bon bah ça passe aussi par l'embauche de ses camarades qui sont d'ores et déjà des cheminots, mais sous contrat précaire. Et donc, je pense qu'il va y avoir des bagarres à mener là-dessus très bientôt. Il va falloir être attentif.
Bonjour, alors j'ai de la chance d'être retraité. Je souhaite à tout le monde. Une anecdote à propos du chemin de fer, Guillaume Pupy, le roi des menteurs, sur la ligne C de la région parisienne, qui est peut-être une des lignes les plus pourries. C'est quand même là, il y a eu quand même l'accident mortel de Bottigny. Alors, il y a des semaines, il y a des week-ends où il n'y a plus de train. Alors, le gros truc, alors, il a de l'humour, ce garçon-là. Il a dit, c'est pour... Voilà, alors il a dit modernisation du trafic, c'est pas vrai, simplement.
Tu prends celui-là peut-être?
Défaillance technique.
Voilà, j'ai tâché d'être court. Parce que je suis assez bavard, les copains le savent. Voilà, le sens du monde de ce garçon, là, c'est pour la modernisation du réseau. C'est pas vrai. C'est-à-dire que ce qui s'est passé à Bretigny, et comme dans beaucoup d'endroits, il y a encore eu un endroit, il y a un accident qui aurait été beaucoup plus grave ce qu'il a été, c'est que simplement le trafic, les réparations, avant il y avait du personnel pour entretenir les voies, les caténaires, maintenant il n'y a plus personne. Alors on arrive à un truc incroyable, c'est que les gens qui prennent le train, même moi, des fois, je me pose des questions. Est-ce qu'on va arriver à bon port, quoi? Alors, à tel point que maintenant, quand le train, il est pas en retard, je suis prêt à les gueuler à la gare. On n'a plus l'habitude de voir des trains à l'heure, vous déconnez, quoi. Là, c'est ce que je voulais dire.
1, 2, 1, 2. Allô? Oui. Bonjour, je viens de Berlin, d'Allemagne, et je voulais vous raconter un peu sur la grève des cheminots en Allemagne, dont vous avez probablement entendu parler. Donc, moi-même, je ne suis pas cheminot, mais je suis militant extérieur qui a suivi de près ce mouvement de grève. C'est peut-être difficile de résumer en quelques mots, mais en fait, les conditions de travail qui ont poussé le personnel roulant, parce que c'est une grève du personnel roulant, à faire grève, c'est que vraiment la Deutsche Bahn, elle a déjà un peu d'avance, même sur la SNCF, en matière d'attaque sur les conditions de travail. C'est-à-dire c'est surtout les conditions de travail qui mobilisent le personnel roulant, parce que c'est vraiment avec toutes les réductions d'effectifs qu'ils ont fait et qu'ils continuent à faire en Allemagne comme en France, c'est vraiment des équipes pas tenables. Et donc les revendications essentielles du personnel roulant, c'était une réduction du temps de travail hebdomadaire de 39 heures à 37 heures au début. Ensuite, malheureusement, le syndicat il a relâché la moitié de la revendication. Il n'en revendique plus que 38 heures actuellement. Aussi une réduction des heures supplémentaires, parce qu'en fait, avec toutes les réductions d'effectifs, la Deutsche Bahn elle continue, elle ne fonctionne plus qu'avec des heures sup partout. Il y a en tout, pour tout le personnel de la Deutsche Bahn, il y a eu 7 millions d'heures sup qui sont accumulées sur les comptes annualisés du temps de travail, parce qu'après, à la fin de l'année, on peut reporter à l'année prochaine. Donc les gens, il y a vraiment des gens qui trimballent avec eux 300, 400, jusqu'à 500 ou plus d'heures supplémentaires qui n'arrivent pas à poser. Ce qui fait l'équivalent donc de 4 mois de travail. Et donc c'est vraiment ce qui exaspère le personnel roulant. C'est le syndicat corporatiste des conducteurs qui a posé cette revendication et qui l'a posé pour tout le personnel roulant. Et le mouvement il a débuté il y a déjà un an à peu près, ou en tout cas les négociations. Mais ça traîne en longueur parce que la Deutsche Bahn elle a refusé de négocier même les revendications en prétextant que le syndicat n'avait le droit que de revendiquer pour les conducteurs et que c'était pas leur affaire voilà. Et donc aussi bien les patrons que les médias et aussi en partie l'appareil syndical de ce syndicat des conducteurs, ils ont marché dans la combine de discuter seulement, pas discuter des vraies revendications, mais discuter de est-ce que le syndicat il a le droit de négocier pour les contrôleurs ou pas. Et on en est à la 9e grève dans ce conflit actuel. Il y avait donc la grève il y a 3 semaines à peu près. Ils ont fait 6 journées d'affilée et c'était la grève la plus longue en durée à la Deutsche Bahn, puisqu'il n'y a pas dans l'histoire depuis la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y a vraiment peu de tradition de lutte en Allemagne. Mais c'était une grève qui était très, très bien suivie. Donc il y en a eu une nouvelle la semaine dernière qui avait été annoncée illimitée ou plus ou moins illimitée, mais que la direction nationale du syndicat a arrêté après une journée et demie, parce que cette fois-ci la Deutsche Bahn elle a dû reculer sur la question de la représentativité syndicale, c'est-à-dire que ils ont donc expliqué voilà, on est prêt à négocier avec vous, avec le syndicat, y compris sur sur les conducteurs et le reste, sur les contrôleurs et le reste du personnel roulant. Et donc là-dessus, la direction syndicale, elle a accepté une médiation pour discuter des vraies revendications des cheminots. En fait, le sentiment à la base, c'est quand même que c'est déjà un succès et qu'on va attendre ce qui sort de ce processus de médiation et des négociations. Mais c'est quand même, en tout cas localement à Berlin, moi j'ai plus suivi l'affaire, c'est lors de ces 6 journées de grève il y a 3 semaines, et même dans la journée et demie la semaine dernière, c'était l'occasion pour des cheminots qui n'avaient pas du tout cette habitude-là de vraiment prendre un peu en main leur propre grève, de faire des manifestations, des rassemblements, de faire des pétitions pour demander à leur direction nationale, parce que c'est la direction nationale qui décide le début ou la fin des grèves, de ne pas lâcher prise et de continuer. Donc on espère que cette bouffée d'air fraîche va quand même permettre à rester mobilisé, même si là pour les 3 semaines à venir, pendant le processus de médiation, le syndicat a dit on fera pas grève, on verra le résultat de la négociation, et ensuite éventuellement il y aura une nouvelle grève. Ça dépendra aussi de la pression de la base, et on espère bien que on arrive à maintenir un certain niveau de pression, y compris sur les négociations. Merci.
Bon, c'est bien parce que là, on a eu à la fois les problèmes et à la fois les solutions. C'est vrai que sur le problème dont parlait le copain de Saint-Lazare avec les contrats d'avenir, c'est en fait tout le problème de la précarisation du secteur qui est posé, et pas, évidemment avec les contrats d'avenir, mais aussi avec tout ce que prévoit la direction, notamment, je l'ai rappelé dans le topo, quand elle parle d'arriver dans les gares à un niveau d'utilisation d'intérimaire ressemblant à ce qui se fait dans l'industrie automobile, quoi. Mais aussi à travers toutes les ce dont on a pu parler au niveau d'externalisation dans la vente, dans les ateliers, partout. Donc c'est vrai que c'est un des principaux problèmes, sans doute, même s'il y en a plein d'autres, mais auxquels on va avoir à s'opposer là dans les semaines, les mois qui viennent. Ce que vient de raconter le copain sur la grève en Allemagne, et comme ce qu'on a pu essayer de dire aussi un peu localement, c'est de toute façon les seules perspectives qu'on puisse avoir. Nous, on compte que là-dessus, sur les réactions qui pourra y avoir de la part des cheminots et qui voudront s'opposer à toutes ces dégradations, à tous ces reculs, parce que ça peut, enfin, on sent que là, la direction, elle est prête à aller loin. Enfin, c'est là ce qui se discute dans la commission pour la convention collective. C'est vraiment un recul généralisé à tous les niveaux des conditions de travail. Enfin, exactement les mêmes raisons que les grévistes avaient à Berlin d'entrer en grève sur les effectifs, sur les conditions de travail, surtout. C'est surtout qu'on va être attaqué. On l'était déjà, mais là, ils vont avoir les moyens de le faire sur une échelle beaucoup plus grande. Il faut qu'on réfléchisse partout dans nos chantiers à la riposte qu'il faut, et également à une échelle bien plus grande que tout ce qui a pu se faire jusqu'à présent. Nous, c'est là-dessus qu'on mise. C'est pour ça qu'on a besoin de militants partout qui se fassent pas seulement les porte-parole de ces idées-là, mais qui essaient de convaincre réellement autour d'eux. Et puis on verra, ça dépend pas de nous, évidemment, qu'il y ait des grands mouvements qui se déclenchent, mais de toute façon, ça pourra passer que par ça, quoi. S'il n'y a pas d'intervention, on est arrivé à la fin de notre temps, mais voilà. Si, il y a une petite... voilà.
Ah, comme tu veux. Okay. Oui, bonjour, moi je suis agent commercial, donc agent de guichet en fait sur la banlieue ouest de Paris, et je voudrais intervenir rapidement sur la fermeture des guichets grandes lignes. Alors, pour ceux qui viennent de région, les guichets grandes lignes, c'est des guichets qui desservent en fait des billets, des prestations pour les 20 autres régions de France. La Corse... Ouais, ça. La Corse ayant un système à part. Ce qu'on observe, nous, depuis pas mal d'années, c'est que la SNCF ferme les guichets grandes lignes en région parisienne. Et moi, je vais parler, en fait, de mon secteur. On a eu la gare de Plaisir-Grignon, on a eu la gare de Villepreux-les-Clés, on a eu le BIR de Sèvres-Rive-Gauche qui a fermé. Et la SNCF prétend que, maintenant, tout est voué à l'informatisation et que les gens, finalement, peuvent faire leurs réservations et puis imprimer leurs billets chez eux. Alors, ces fermetures des guichets, ça crée trois problèmes. Le premier, c'est que la SNCF, du coup, n'embauche plus. Le second, c'est que on observe une augmentation de la charge du travail, puisque les ventes qui étaient effectuées par ces agents des guichets grandes lignes, elles se répercutent sur les agents transiliens. Et l'autre problème que ça crée par rapport à ça, c'est l'augmentation, en fait, de la charge de travail et du stress. Parce que les clients qui viennent pour recharger leur passe Navigo, acheter leur ticket Mobilis ou leur ticket jeune, ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on met plus de temps, alors que nous, on néglige personne, en fait. Et je peux vous certifier que repartir une petite mamie avec son billet grande ligne, donc son billet pour Rennes, pour Perpignan, pour Orléans, c'est super encourageant pour nous, quoi. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, il y a une mobilisation, en fait, avec des élus et des pétitions, ça vaut ce que ça vaut, mais bon, ça permet aussi de faire connaître une cause contre la fermeture du guichet grande ligne, donc du guichet BIR de Vanves-Malakoff, et ainsi que celui du guichet de Bellevue, quoi. Mais à chaque fois, les arguments de la direction, c'est voilà, il faut diminuer les coûts, et puis finalement, ça nous revient trop cher, c'est pas rentable, et tout ça pour nous, quoi, c'est des arguments fallacieux, voilà.
Ouais, donc depuis quelques années, quand même, maintenant, on prend des coups tous les mois quasiment. Il y a un coup nouveau qui nous tombe dessus. Ceci dit, là, pour une fois, il n'y a pas qu'à Nantes que ça se passe. Moi, je suis Didier, je suis aiguilleur sur Angers, c'est la région de Nantes. Voilà. Depuis le début, 30 mars exactement, il y a un mouvement qui se développe sur Nantes, là, où les trois objectifs principaux sont l'arrêt de la conduite à agent seul, l'arrêt de la suppression des chefs quais et la titularisation de tous les contractuels CDD, CDI, et, enfin CDD et emploi d'avenir. Eh bien là, je ne sais pas où ce mouvement-là va arriver, mais enfin pour l'instant, ça va crescendo. On est parti de 30, 70, 120. Vendredi dernier, on était 160. Enfin, 160 que sur Nantes, mais sur la région de Nantes, on devait être à peu près 250 grévistes, ce qui est quand même pas rien. Et dans 15 jours, on remet ça. Le problème, c'est qu'on n'arrivera pas. On les a fait reculer déjà un an sur la région de Nantes pour l'expédition des trains. Au moins pour Nantes, la gare de Nantes. C'est déjà un recul. D'accord, on a pris des coups. On recule. Mais là, c'est eux qui reculent un peu. Donc on a intérêt de continuer de pousser. Parce que là, si on veut gagner, de toute façon, on sait très bien que sur la suppression de ces projets-là, on n'arrivera pas à gagner que sur la région de Nantes. Donc bah, dites-le partout, dites-le que qu'on sera en grève le 5 juin, et puis s'il y en a qui peuvent nous rejoindre, bah, qu'ils viennent. En tout cas, sur ces trucs-là, on peut gagner.
Salut, moi je suis Roulant, je travaille dans la restauration ferroviaire, donc une société privée qui est sous-traitante de la SNCF. En fait, je travaille pour la société Nures Wagonlit, c'est les barres TGV, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et on fait partie de cette myriade de sous-traitants qui sont employés par la SNCF indirectement, mais pour faire des économies, l'activité est confiée à des sociétés privées. Donc il y a aussi les personnels des toilettes en gare, il y a aussi les gens qui s'occupent du nettoyage dans les trains qui sont des sous-traitants, comme ça. Et pour nous, bah, ça se traduit par exemple par... une précarisation de l'activité dans le sens où il y a un recours de plus en plus systématique aux travailleurs intérimaires et en CDD. Ça se traduit par des conditions de travail où on est un peu plus surveillé, pressuré. On a par exemple des clients mystères qui montent de manière aléatoire dans le train pour surveiller notre comportement, etc., nos faits et gestes. Bon. Et par rapport à la division entre différentes sociétés, différents acteurs, ben pour nous, ça se traduit par un gros bordel dans le sens où il y a la SNCF qui chapeaute l'activité, qui confie la gestion du personnel à la société Nures, donc c'est nous. C'est un peu presque du prêt de personnel, donc c'est à la limite de la légalité. Il y a la société Avirail qui se charge d'approvisionner les trains en marchandises. Et il y a une autre société qui s'appelle CRM Service, qui est une filiale de la SNCF, qui elle s'occupe des dotations, donc les commandes, etc. Et... pour couronner tout ça, ils nous ont mis en place dernièrement, soi-disant pour améliorer les choses, un logiciel de gestion de la marchandise qui s'appelle Prosper et qui est absolument pas au point parce qu'on a des dotations complètement farfelues. Bon, et alors face à cette situation, ben, on n'a pas été sans réaction. On a fait une grève au mois de février dernier qui a été très bien suivie. Pendant une semaine, on a eu, en tout cas les premiers jours, jusqu'à 80% de participation. Donc il y a un gros mécontentement. On a obtenu des choses concernant l'aménagement des plannings, on a obtenu des week-ends garantis, des repos doubles, etc. Donc la grève, ça a marché de ce point de vue-là. Par contre, au niveau de la gestion des marchandises, c'est toujours le chaos. Donc ça fait dire à certains qu'il faudra peut-être remettre ça bientôt. Et de notre côté, certains d'entre nous essaient de faire des actions en direction justement des autres cheminots, parce que nous on se considère aussi comme des cheminots même si on est de droit privé. Par exemple, quand il y a eu la grève de juin 2014, là, sur l'antenne de Strasbourg où je travaille, on a monté une collecte de soutien pour ramener aux camarades grévistes, pour les encourager et surtout pour faire passer le message qu'on est tous des cheminots, quel que soit notre type de contrat, qu'on soit privé ou public, et qu'on a tout intérêt à se battre tous ensemble, quoi. Voilà.
Thank you.
d'autres interventions? Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres interventions, on va s'arrêter là. Donc, on sait ce qu'il nous reste à faire. C'est chacun dans nos chantiers et on verra bien la suite. Mais de toute façon, voilà, ça passera que par vraiment un mouvement profond, général, large et qui s'arrêtera pas seulement aux cheminots si on a envie de mettre fin aux attaques qu'on est tous en train de subir.